I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Eh hey, ouais, vous ne rêvez pas, c'est bien Casus FM sur la TG Radio. 4 ans après, le retour. Oh,
j'ai une addiction au cannabis, c'est sûr, au THC on va dire, parce que je suis tenu par ce truc quoi. Et en fait, il y a un moment, j'ai dit, mais il y en a marre en fait de. S'il y en a plus, c'est genre, ah merde, il n'y en a plus. Ça l'aurait. J'ai plus de pâtes, je fais pas un caca nerveux chez moi quoi. Ben, tu vois, il n'y a plus de pain, ouais, ben, il y en aura demain.
Plus de pain, ça va, par contre, plus de weed, bonjour les dégâts.
Notre invité du jour a tellement fumé dans sa vie qu'il se demande parfois s'il serait le même sans pétard.
Comme toute relation de longue durée, son histoire avec le joint est compliquée, faite d'amour et de haine. Fume-moi, je te suis, fuis-moi, je te fume.
Ça y est, c'est déjà parti en poésie. En tout cas, ça ne l'a pas empêché de créer et de nous faire danser. Figure de la French Touch, en solo sous le nom de Boombas ou en duo avec Cassius.
Hubert Blanc-Francard est notre invité, c'est l'épisode 27 de Banana Kush.
Mais qu'est-ce que vous fumez, colonel ?
Des bananes.
Vous en voulez ?
Oh non, merci.
Moi, avec plaisir.
Le trafic de la banane connaît une embellie.
Une drogue interdite.
La banane tient la première place.
Et pourtant, un produit qu'on consomme la plupart du temps en cachette.
Rien ne peut résister au lobby de la banane.
C'est un fléau !
Nick, la radio présente Banana Kush, le podcast des cultures du cannabis. Camille Diao, Christophe Payet.
Si le nom de Blanc-Francard vous dit quelque chose, eh bien c'est normal. Blanc-Francard, c'est pas un musicien, mais une dynastie de musiciens.
Fils de l'ingénieur du son et grand producteur Dominique Blanc-Francard, neveu du producteur, journaliste et homme de radio Patrice Blanc-Francard, frère du chanteur et compositeur Mathieu Blanc-Francard, plus connu sous le nom de Sinclair, notre invité Hubert Blanc-Francard était destiné à la musique.
Compositeur et DJ, Hubert alias Boombas rencontre un beau jour un certain Philippe Sdar. Ensemble, ils vont faire de la musique électronique, d'abord sous le nom de la Funk Mob. Ils vont produire pour des rappeurs comme MC Solar. Mais surtout, ils vont créer certains des plus gros tubes de house music à une époque où la France électronique rayonne mondialement. Boombas et Sdar forment Cassius, un duo de légende, la French Touch était née.
25 ans plus tard, le duo Cassius est toujours actif jusqu'à la mort soudaine et accidentelle de Philippe Sdar en juin 2019. Deux années ont passé. Boombas fait toujours de la musique, mais il s'est aussi mis à écrire. Il nous a reçus chez lui, dans son salon studio, habité de pianos, de synthétiseurs et de machines en tout genre. Avec lui, on a parlé inspiration, concentration et addiction.
Banana Kush, le podcast des cultures du cannabis.
Méchant pétard, méchant pétard.
Méchant machin, méchant machin.
Hubert, Boombas, bonjour.
Bonjour, c'est bien moi.
Question traditionnelle avec laquelle on démarre tous nos entretiens. Quel fumeur es-tu ?
Alors, je suis un fumeur. C'est un mélange de passion et de problèmes en fait. Parce que je connais très très bien le sujet, parce que j'ai commencé assez jeune. Et je connais très bien les coups, les travers et les bons côtés. Et je découvre la dark side qu'il peut y avoir, qu'on ne veut pas voir parce qu'elle n'est pas si évidente. Mais c'est, ça, c'est propre à chacun, hein. C'est quelque chose qui n'est pas...
Tu ne connais pas le pouvoir du côté obscur.
C'est quelque chose de nouveau, cette
Non. C'est quand je dis une dark side, c'est pas quelque chose qui est horrible. Non, je ne le ferai pas, mais c'est plutôt il y a une addiction qui est liée au cerveau et qui est, en fait, avec le temps, est de plus en plus compliquée à maîtriser parce que c'est elle qui te tient, quoi.
Tu ne pourras pas te cacher éternellement, Luc.
Les gens que j'ai pu voir qui fumaient, il y en a qui sont plutôt, on dirait pas faits pour ça, mais qui ont une nature avec laquelle ils peuvent vivre. Je pense que j'ai cette nature-là. Et il y en a pour qui c'est destructeur parce que ça, ils peuvent plus rien faire. Et ça, je le sais tout de suite, tu le vois avec tes potes et tout. Tu vois, t'as celui qui saute en l'air et l'autre qui est tout de suite au fond des canapés toute la journée. Tu dis, c'est marrant, on n'est pas pareil. Donc, tu comprends au début. Mais voilà, mais j'ai un rapport, j'ai une passion pour l'effet que ça me fait et qui est en fait une sorte d'équilibrant.
Alors, pousse-le du côté qui va tomber.
Mais bon, c'est un équilibrant, tu joues avec le feu quand même un peu.
Et concrètement, quand tu dis que je suis un fumeur, tu fumes quand ? Combien de joints par jour ? Comment ?
Dans quel type de moment ?
Voilà.
Si j'allume mon drogue pour faire la musique et que je suis tout seul, je rêve de fumer un joint. Et comme je fais que ça, j'ai pas du tout envie de... Genre, il y a un dîner, j'ai pas envie de me faire un joint à table. J'ai pas du tout envie d'être à l'ouest quand on est plein pour discuter et tout. C'est pas agréable. C'est un truc qui, quelque part, contrairement à ce que je pensais plus jeune, c'est presque solitaire pour soit dormir, ça aide, ou pour créer, en fait, c'est hyper bien. Mais c'est pas quelque chose de social. Moi, je vois pas ça comme un plaisir social, quoi.
Ouais, alors peut-être pour revenir à la jeunesse de ton histoire, ouais. Avec cette plante, t'as dit que t'avais commencé tôt.
Pas tôt, pardon, je te coupe.
Vas-y, t'as commencé à quel âge ? T'as commencé comment ?
Vers 14, 15, 16 ans, tu sors dans les boom soirées. Moi, j'avais tout le temps le cul du joint, quoi. T'as 7 mecs pour un joint, c'est 7 tigres face à un petit bout de viande, tu vois, ça sautait en l'air. Et j'étais pas hyper motivé, en fait, parce que mon père m'avait expliqué plein de choses. Mon père est dans la musique aussi, il est ingénieur du son, et assez jeune, il m'a parlé discrètement de tout ça. Et comme il voyait que j'avais envie de faire beaucoup de choses, il avait joué sur la corde en disant ouais, mais bon, c'est super, mais tu vois, en fait, après, tu fous plus rien, en gros. Et je me suis dit, waouh, et donc tu vas perdre du temps et tu vas passer à côté de trucs. Et ça m'avait hyper angoissé.
Tant que tu écoutais Mi-Gégère et le Butel, je n'use rien. Mais quand tu fumes du hakik, non!
Donc j'ai vraiment attendu, et en fait c'est arrivé, mon vrai souvenir où j'ai vraiment, ça a tilté, c'était j'étais assistant dans un studio, et c'est un pote qui s'appelle Sodi, et donc là on est fin 80, un truc comme ça, c'est un truc assez branché pour l'époque et tout, il y a plein de mecs, plein de filles, c'est hyper cool dans la cabine, là il y a un joint qui tourne, et pour la première fois j'ai pas la fin, mais genre le début, et je connais pas, donc je fume ça, 3, 4, je sais pas, peut-être trop. Donc on me le prend des mains et là tout d'un coup tout est parti en sucette, j'étais assistant donc j'étais censé travailler, m'occuper de tout et là je suis monté, il y avait une pièce en haut, j'ai regardé un film, j'ai bouffé, j'ai pleuré devant le film comme un fou et je me suis endormi, ils m'ont cherché partout, je me suis réveillé à 6 du mat, où est-ce que je suis, tout le monde laissait un mot, on a dit on t'a laissé dormir, on a essayé de te réveiller et tout, donc et par contre ça c'était l'histoire, mais l'effet que j'ai ressenti, comme il y avait de la musique, ça a changé la perception de la musique. Et je me suis dit waouh, c'est incroyable, le morceau qui était peut-être pas incroyable là, me paraissait fou, les basses, les trucs, les machins.
Ce soir c'est de toute beauté.
Après j'ai eu faim, je suis parti, j'ai quitté la pièce, mais ça a été je sais que ça a été ça un peu l'accroche, c'est-à-dire cette sensibilité qu'on peut avoir qui est hyper exacerbée d'une bonne façon.
Il est très émotif.
Non, il s'est cogné la tête ce matin à Paris, puis là, il vient de se la recogner.
Alors justement, le dernier épisode de Banana Cash qu'on a sorti, ouais. Il était consacré au lien entre le cannabis et la musique. Et on a interviewé des musiciens, notamment on entendait Sébastien Tellier dans cet épisode, qui nous raconte que dans sa pratique musicale, dans la manière dont il compose, fumer ou consommer du cannabis, peu importe sous quelle forme, ouais. Ça lui permet d'atteindre un niveau de concentration, de rentrer plus dans la musique et de travailler mieux. Est-ce que c'est ton cas aussi ?
Je comprends ce qu'il veut dire au sens de la concentration, parce que je pense qu'on est toute personne qui aime jouer ou apprendre la musique, c'est un adepte de la concentration. T'es tout de suite avec trois accords trippés, et donc si on a le cerveau un peu hyperactif, ça permet de penser à beaucoup moins de choses.
Ressens, ne pense pas, fie-toi à ton instinct.
Ça ferme les portes que t'as pas tous les trucs un peu chiants de la journée. S'évapore, et là tu peux te concentrer, comme dit Sébastien, pendant 5 heures sur ce que tu es en train de faire, et tu as vraiment l'impression de rentrer dedans. Mais je suis intimement convaincu que tu obtiens la même chose en pleine forme. L'ayant déjà vécu, et le faisant plus jeune, que j'ai commencé à faire de la musique jeune, et je tripais comme un malade pendant 2 heures en rentrant de l'école. Donc c'était. Simplement là, ça amplifie un petit peu, et ça déstresse. Les questionnements, les trucs, tout d'un coup, oh, tu vas peut-être plus à l'essentiel, tu vois, quelque chose de. Moi, ça m'a vraiment aidé dans la musique. Justement, et avec Philippe, on a vécu des trucs incroyables d'accidents parce que justement, tu fais un peu n'importe quoi. et ça peut t'aider à faire n'importe quoi.
Tu évoques Philippe, juste pour préciser. Philippe,
oui,
c'est
Philippe Zdar, pardon. Oui, parce que j'ai
ton acolyte au sein du duo Cassius. Donc c'est quelque chose que vous partagiez ensemble, le cannabis ?
Oui, mais après, en studio, on ne fumait plus du tout. Parce que là, vraiment, j'ai réalisé, et on a réalisé tous les deux que c'était... ça, c'est pas gérable. Surtout à deux, c'est compliqué parce que en fait, il faut rester synchro, quoi.
Oui, ça on voit pas forcément dans les mêmes sphères.
Il y en a un qui part sur un truc, l'autre qui part sur l'autre. Donc c'est pas. Mais au début, on le faisait, mais du coup, ça prend un temps fou. Maintenant, il y a eu un Bob Marley et 3 millions de mecs qui fumaient, qui avaient des trucs horribles. Donc faut faire quand même gaffe. C'est pas la clé magique, quoi. Ouais, c'est-à-dire, moi, j'y ai cru un moment, hein, que c'était waouh, grâce à ça. Mais non, ça change pas le problème qu'il faut bosser comme un malade, quoi.
La potion magique, ça n'existe pas.
Et quand t'es pas côté compositeur, mais côté auditeur, est-ce que fumer en écoutant de la musique, ça sert
C'est d'ailleurs comme ça que j'ai aimé fumer. Quand j'ai découvert des disques.
Quel disque, quelle musique, qu'est-ce qui marche bien pour toi
Ça va être par période, quoi, je pense. Soit quand c'est très hypnotique et que t'es dans l'état, c'est vraiment... si tu comprends l'intérêt de la musique hypnotique, ça peut être si vrai, mais ça peut être aussi de la house ou de la techno, c'est juste l'idée de la répétition. Alors paradoxalement, dans un club, en fait, j'ai pas du tout envie, quoi. Bizarrement, c'est parce qu'on est entouré de gens avec le bruit et tout, c'est le truc où pour écouter la musique, c'est pas l'idéal, par exemple. Ou même pour jouer et tout, ça c'est pas parce que je sais pas, il y a un truc qui te détache, on se rend pas compte, mais en fait c'est quand même le temps est accéléré. Par exemple, un de 7 minutes, il dure 1 minute 30 quand t'es en train de jouer, il faut que tu sois toujours dans les 2-3 prochains et tout. Et si tu commences à fumer, t'es là, oh c'est cool et tout, d'un coup, déjà à la fin. Bon.
Alors dans une interview, tu parlais d'écouter le Requiem de Mozart.
Vous aimez Mozart ?
Oh oui. C'est lequel ?
Le dernier.
Ça, c'est la première. C'est une des premières fois, c'était avec mon meilleur pote. J'avais quand même moins de 18 ans, j'avoue.
Oh le con! Oh le con!
Mais on fumait pas beaucoup en fait, c'était une galère à trouver, etc. Et là, je sais pas, il se barre acheter à manger, un truc comme ça. Donc je suis tout seul et il avait, je sais pas pourquoi, il avait chez lui les premiers CD, il y avait le Requiem de Mozart, je l'ai écouté au casque. Et là, j'ai fait un voyage complètement fou. Ce qui est fort avec Mozart, c'est qu'il faisait des tubes en fait. T'as pas besoin d'avoir une énorme culture pour tout de suite rentrer dedans, ce qui est arrivé là. Mais là, j'ai fait un voyage et j'étais un aigle, je planais à travers les montagnes, j'avais des frissons d'émotion, c'était incroyable. Mais je pense pas que je l'aurais eu en l'attendant, dans la télé, en écoutant ça au casque. Là, il y a eu un truc d'émotion.
J'ai une vision globale des choses. Je ne suis pas le petit ver de terre, je suis l'aigle.
En même temps, si c'était avant 18 ans, c'est un peu l'apanage des premières fois aussi. Enfin,
c'est oui, ça, mais ça c'est sûr. Sauf que j'ai retrouvé ça. Je l'ai retrouvé toute ma vie. Mais par contre, j'ai fait énormément de conneries dans ma vie, aussi grâce à ça.
C'est-à-dire ?
Ah, la liste, elle serait longue. On en a fait aussi professionnellement. Le nombre de choses que tu fais pas. Ça m'arrive plus maintenant parce que j'ai l'expérience, mais entre 25 et 40 ans, c'était n'importe quoi. Ça amplifiait certainement aussi des manques de confiance en soi. C'est-à-dire que ça va pas, c'est pas l'aide dans les moments où t'es en doute. C'est pas forcément l'idéal, mais bon, ça tu le sais pas. Et bon, c'est ça que j'ai découvert. Ah, je devrais faire une soirée comme ça et tout. Tu dis ouais, puis finalement t'as pas. Puis t'as des mecs qui le font 6 mois après. C'est une super. Tout le monde dit ah c'est génial. Tu dis mais en fait c'est con, on aurait dû le faire.
Et quand tu dis entre 25 et 40 ans, ça veut dire que ça c'est une période de ta vie où tu penses que t'as trop consommé ?
Non, pas du tout. C'est une période de ma vie où je pense que ça amplifiait l'ouest ouais. Où j'étais déjà en fait parce que. Mais je pense qu'on c'est encore dans ma nature, c'est que en fait je m'en foutais un peu de tout quoi. Enfin, pas de ma famille, mais je veux dire de tout ce qui pouvait être un problème, n'en était pas vraiment un.
Mais il a pas un problème, il en a des milliers.
Ce qui est hyper agréable, hein, je regrette pas du tout. Mais par contre, du coup, il y a certaines priorités qu'il faut quand même affronter dans la vie parce que la vie n'est pas qu'un long kiff. Bah tu le mets sous le tapis, tu vois, et puis à un moment ou à un autre, t'as l'addition, quoi, ça c'est sûr.
Bon, c'est parce que j'essaie de rester cool, mais je suis tendu.
Aujourd'hui, du coup, tu considères que t'as une addiction au cannabis et tu t'en accommodes en quelque sorte ?
J'ai une addiction au cannabis, c'est sûr, au THC, on va dire. En fait, j'ai passé là 2-3 ans assez compliqués, j'ai affronté plein de trucs, j'ai progressé en fait énormément dans ma tête, etc. Et je me dis, ça... C'est un peu mon ancienne vie en fait.
Donc il y a des périodes où tu essayes de faire ça.
Ouais. J'ai essayé il y a 2 jours en me disant, c'est pour ça que j'en parle là. Là quand j'essaye, c'est compliqué. Hein. À 18h, j'ai une crise d'angoisse le soir. Et là, je me suis dit, ah ouais.
Plus de drogue pour ce mec.
Bon, en plus, à la période, c'est pas le top, pour, tu vois. Mais j'ai compris, je me suis dit, ah, c'est bizarre. Mais par contre, ce que je sais, parce que j'ai déjà arrêté plusieurs fois, c'est que c'est quelque chose que tu passes, c'est un truc de volonté, en fait. T'as pas des souffrances avec ton corps, tu fais pas des rêves avec des chiens qui viennent t'attaquer, etc. C'est pas...
Tu disais que tu faisais des crises d'angoisse, t'es angoissé, toi ? C'est aussi ça qui t'a porté vers le cannabis ?
Et ben en fait, j'en sais rien, parce que je me pose la question, parce que ça fait... À partir du moment où la moitié de ta vie, tu la passes un peu dans un état que tu... modifie.
Je suis une fougère.
C'est ça qui m'intéresse aussi. En fait, aujourd'hui, j'aimerais bien en fait savoir comment je suis, genre réellement, sans ce truc-là. Et bon, mais j'adore ça. Hein. C'est ça le truc.
Banana Kush. Un podcast de Nick, la radio.
Récemment, tu t'es intéressé à une forme légale de cannabis, ouais. Sans THC, ouais. Le CBD. T'as même lancé ta propre gamme récemment.
Je crois, parce que réellement, j'ai adoré ce truc. Le problème, c'est que quand si justement ton corps est habitué à autre chose, c'est pas en 7 minutes que tu dis waouh, c'est génial. Le problème, c'est un peu comme si c'est, on va dire, du raisin et du vin, quoi. Non, mais c'est vrai.
C'est une très bonne analogie.
Comme quoi, le raisin, ça mène à tout.
C'est-à-dire qu'un verre de vin, c'est pas pareil qu'une grappe de raisin quand tu le mets dans ton corps. Et en fait, le raisin, c'est hyper bon pour la santé, c'est hyper agréable, mais tu vas pas être bourré et danser à poil sur la table parce que t'as pris une
canette de jus de raisin.
Une canette de jus de raisin. Mais c'est vraiment ça. Mais ce que j'ai aimé, c'est que j'ai des trucs qui sont hyper forts en CBD. Et là, je peux dire que qui suis un nerveux, tu peux plus jamais t'énerver.
Et donc ça veut dire qu'un gros consommateur de THC comme toi peut remplacer une partie de sa consommation par du CBD.
Ouais, je pense, mais il faut en avoir envie. Le truc, c'est comme tout, c'est que il faut que ça t'intéresse, l'idée.
Donc ça veut dire que dans les années à venir, tu te vois fumer peut-être un petit peu moins de weed au THC et un petit peu
en
plus.
En fait, mon nouveau défi, c'est il faut que je me découvrir avec rien. Là, c'est même pas lié à l'effet ou pas, c'est une sorte de volonté de dire là, j'aimerais bien réussir ça. Parce que je suis tenu par ce truc, quoi. Et en fait, il y a un moment, j'ai dit, mais il y en a marre, en fait, de s'il y en a plus. C'est genre, ah, merde, il y en a plus.
Mais il y en a plus. C'est bête.
C'est vrai, j'ai plus de pâtes, je fais pas un caca nerveux chez moi, quoi. Ben, tu vois, il y a plus de pain, ouais, ben, il y a un ras-de-main. Là, s'il y a plus de trucs, c'est, ah ouais, attends, merde, j'ai pas le... Non, donc... After the world we all see, get my answers from machine. You could put me on the line, so I get some peace of mind. Can't keep trying to deny, got no more strength to keep up the fight. Hanging on to hear the ring, all I get is a machine. Toop toop, toop toop.
On s'est baladé un peu sur ton compte Instagram et on est tombé sur un post qui est une photo souvenir prise avec un de tes amis dans un miroir avec cette légende Magic Hotel, Californie, pendant l'enregistrement de l'album Au Rêve, Weed, Burger et la Casbah des Daft. Alors Au Rêve, c'est un album de Cassius.
Alors Au Rêve, c'est le deuxième album.
Ouais.
Mmh. Ouais, c'est vrai qu'on a enregistré entre 1999 et 2001 et quelques. Il y avait les Daft qui venaient de finir leur deuxième album mais aussi qui s'appelle Discovery. Et il y avait tout le projet autour avec les masques, les robots, toute l'apparition du truc. Et en fait, nous, on était là à ce moment-là. Et j'ai mis 8 burgers parce qu'on a fait que ça. Bon, c'était génial, mais et là, c'était pas la même herbe qu'à Paris. C'était un enfer. Et à ce deuxième album, sur lequel on a notamment, ça nous a servi de leçon après, on a beaucoup fumé. Comme c'était un mélange de surambition, de succès, de post-succès, etc., ça nous a mis vraiment dans le chaos.
Mais alors, quel genre de chaos ?
Ben, un chaos où, comme on avait gagné des ronds, on avait une super avance, on avait un budget, on n'avait pas de limite de temps ni de budget, en fait, et qu'en plus, la technologie évoluait hyper vite à ce moment-là, on ne finissait jamais. Ah, mais on pourrait faire ça, 9 guitares, 37 synthés, on avait acheté plein de trucs. T'as plus le recul parce que t'es dans le plaisir absolu, c'est trop généreux, toi t'es dans un truc. Mais ça fait qu'on a mis 2 ans. Donc là on a dit non, c'est trop, c'est trop.
tu évoquais la weed californienne, ouais, qui n'est pas tout à fait la même qu'en France. Est-ce que c'est un endroit que tu connais bien, la Californie?
Pas hyper bien, mais j'y suis allé pas mal de fois. Et la dernière fois qu'on y est allé, que j'y suis allé, c'était justement avec Philippe. Et c'était pour l'album Ibifornia. Et là, on fumait. Là, vraiment, on était vraiment hyper, hyper pro. En plus, on était dans le studio là-bas, on était avec Magdi. Bref, une fois qu'on a fini la semaine, là, on se dit, alors, quand même en Californie, et on va chez un copain de Mike. Et dans son salon, il a une espèce. Il y a un pot en verre qui est rempli de weed, mais il y a écrit il y a toute une ordonnance dessus. Et on se dit, bah, c'est ouais, bon, l'ordonnance, c'est le truc pipeau et tout. Il nous dit, ouais, bien sûr, prends. Évidemment, on prend une tête gigantesque. On va acheter, on va faire les courses, on va acheter à manger, on achète pour $200 dans leur truc bio, tout est à $15 la carotte. Mais on achète tout, du sucre, du salé, du machin, on arrive, on fait chacun évidemment un énorme joint. Et là, en fait, c'était réellement une herbe médicinale où on n'a jamais eu aussi faim de notre vie. Et on a tout bouffé. Et il y a Pedro, un pote qui nous a rejoint, on lui a même pas parlé, alors qu'il était venu exprès ce jour-là pour arriver en arrivant avant et tout. On a fait que manger et tout, on l'a jeté après le truc. Le lendemain, on a dit, on peut pas garder ça.
Il a tout mangé. Tout. Il ne me reste rien dans ma cuisine.
Alors il y a un autre post, je reviens à Instagram, un autre post Instagram un peu plus récent, sur lequel on voit justement à côté d'un manuscrit, t'es souriant et tu écris « Commencé en 2017, terminé en 2021, mon plus long voyage, 30 ans de musique et d'aventure ». La victoire du cancre, 1 kilo de weed, 345 nuits blanches. Là, tu parles de ton autobiographie que tu viens de terminer.
C'est exactement ça. Et je pense pas 1 kilo quand même. C'était une image, c'est vrai.
Sur 3 ans,
sur 3
ans,
en fait, je préfère peut-être pas faire le calcul, en fait. Mais ouais, c'est un truc commencé sur les conseils d'un ami médecin qui me dit à un moment que je devrais me lancer dans chose de personnel. Je commence un dimanche à écrire un truc sur mon oncle qui avait plein de disques, etc. Ça m'a pris 2 heures, je me dis, ouais, c'est marrant à faire. J'ai commencé à me lancer dans un truc et puis après c'est devenu une obsession. J'ai vendu carrément tous mes synthés.
Vous avez une machine à écrire?
Je me suis complètement enfermé, donc je jouais plus, etc. Donc j'avais plus de revenus et je me suis dit, oh, ça va me prendre 6 mois, et puis en fait ça m'a pris 3 ans. Et donc ça a été un vrai truc de fou et j'ai réalisé que je me rappelais de tout. C'était à ce point de tout.
Malgré tout ce que t'as fumé dans
ouais, ta justement, c'est ça. Parce que justement, on s'est foutu pendant 30 ans, on s'est foutu de ma gueule en disant tu te rappelles de rien. Et en fait, jusqu'à mes 5 ans, quoi. Et c'était une super, incroyable expérience.
Et tu fumais en écrivant?
Ouais. C'est ce qui m'a peut-être aussi fait prendre 3 ans. mais là je regrette pas du tout parce qu'en fait c'est devenu obsessionnel et ça me mettait dans un état complètement second, bon, qui a fait flipper tous les gens que je connais, mais c'est pas grave, fallait que j'aille dans ce truc là, je suis allé à fond, sinon j'aurais jamais fait. Autant la musique oui, mais là c'est pas mon métier, c'est pas à un moment c'est devenu une difficulté, je sais pas comment dire, la vie a fait en plus que, avec ce qui s'est passé, parce que donc Philippe est mort il y a 2 ans. Ça m'a quelque part aidé à traverser un truc assez infernal. Et le plus étrange, c'est que ça a donné une fin au bouquin. Mais ça a donné presque un sens. Enfin, je sais pas comment expliquer.
Et donc tout à l'heure, tu évoquais le côté peut-être déstressant du cannabis. Là, dans le fait que tu passes de la musique que tu connais très bien à l'écriture, ce que tu n'avais jamais fait, est-ce que du coup, ta consommation de cannabis, elle t'a peut-être aidé à sauter le cap et à te lancer dans...
Je pense qu'elle a amené une certaine nonchalance face à la, en fait, un certain flou face à la réalité du travail que ça représentait. Parce que je pense que si on m'avait dit bon alors ça va, tu vas commencer par ça, tu vas le refaire 500 fois, ça, genre voilà, ok, l'idée elle est cool, mais bon, je crois ça très vieux. Ça m'a apporté ouais ça. Et je pense quand même aussi ce focus limite déviant quoi. J'ai pensé qu'à ça, c'est pour ça que je savais que je dormais plus, tu rêves de passé composé quoi.
Banana Cush.
Yes, we have no bananas.
Sur Nick, la radio.
We have no bananas today. Bananas today.
En parallèle de l'écriture de cette autobiographie, tu as continué à faire de la musique.
Ouais.
Tu as sorti un EP qui s'appelle Le Virage.
Ouais.
C'est, je crois, la première fois que qu'on entend ta voix en français.
Carrément, ouais. Ouais.
Je t'ai suivi. Des yeux. Alors regarde-moi.
Il paraît que c'est un soir où t'étais foncedé. Et que tu t'es dit, tiens, mais en fait, pourquoi je chanterais pas en français?
Ouais, mais en fait, c'était pendant, c'était à la fin du dernier album de Cassius. Et j'ai un instru, je me dis, mais il faut faire de... Je vais essayer trois phrases en français, je l'ai fait, et là, j'envoie un bout à Philippe. Au téléphone, il fait, ah, il se fout de ma gueule en disant, waouh, le génial, le M de la techno, etc. Parce qu'il était en train de faire l'album de Mathieu à ce moment-là. Il me dit, ouais, le M de la techno. Et je lui dis, mais va te faire foutre. Je te dis qu'il faut, bah, tout l'amour que j'ai pour Mathieu, c'est pas la fête, c'était le fait qu'il se fout de ma gueule. Et je lui dis, mais il faut qu'on fasse ça, le prochain Cassius, au lieu de faire des anglais où on raconte n'importe quoi, il faut qu'avec nos deux voix, et on était à fond sur l'idée d'essayer ça. Donc je me suis dit, bon, il faut que je le fasse. Et après, j'ai fait un album entier, que j'ai dans mon tiroir. Moi j'ai trippé, je me suis éclaté à faire tout un truc, mais tout d'un coup je me dis, ouais, me retrouver chanteur, j'ai eu une petite crise d'angoisse pour le coup.
Donc ça reste dans le tiroir pour l'instant.
Je sais pas, ouais, j'ai les trois bottes qui me disent c'est une connerie, mais je sais pas, il faut. Je verrai bien, mais c'est très différent de. En fait, quand tu as une chanson en entier, il faut la représenter. Enfin, si tu racontes une histoire, il faut que tu la défendes, il faut que tu ailles l'expliquer. Je sais pas.
Et alors justement, je reviens du coup à l'EP, ouais, le virage, il a un côté très, très sensuel.
Carrément.
Ce qui, vas-y, t'as enchaîné, Christophe.
Voir sexuel.
Voir sexuel.
Ouais, je pense que c'est, ouais. Il est sexuel, ouais.
Ouais.
Enfin, excuse-moi, j'ai l'impression de dire DSK, c'est pas sexuel.
Ma main a coupé que ça va encore tourner autour du trou de balle, cette histoire. Identité sexuelle.
Non, mais c'est pas, j'aime pas le mec qui dit il est sexuel, c'est pas l'idée c'était que ce soit pour que tu, et après tu traduis ce que t'as envie derrière. Regarde-moi, tu peux dire ce que tu as envie.
J'ai envie de...
Et j'aimais bien l'idée de le retranscrire par des mots en français.
Et que tu...
Ce qui nous amène du coup à un autre sujet auquel on s'est intéressé dans Banana Cut, c'est les rapports entre le cannabis et le sexe.
Je pourrais te...
Toi, ça c'est sûr, c'est compatible, ça l'est pas.
C'est plus que compatible.
Ça dépend des gens, mais...
C'est même essentiel, carrément. C'est tout aussi bien sans, mais c'est quand même un peu mieux avec. Pour le coup, il y a une amplification aussi sur la peau, le tout, qui est vraiment fabuleuse.
Ta peau est douce comme pétale de rose, ma jolie Béatrice.
J'avais une dernière petite question, puisque en début d'interview, tu as évoqué ta famille et tes filles. Comment on gère le fait d'être un papa fumeur?
Je crois que je me suis pas trop mal démerdé. J'ai cru qu'elles m'avaient pas grillé, mais j'ai appris qu'elles m'ont grillé depuis qu'elles sont toutes petites. Et qu'avec leurs copines, elles venaient, elles adoraient parce que j'étais complètement à l'ouest. Et bon, elles se marraient bien, quoi. Donc il y avait un truc. Mais j'ai pas vraiment caché. Je l'ai pas non plus. En fait, elles m'ont toutes les deux, à des âges différents, posé la question dessus. Ou sur les drogues en général, etc. J'ai vraiment dit la vérité en me disant qu'en général, t'as pas envie de ressembler à tes parents. Donc ce serait un truc de vieux, quoi. Et tous leurs potes fument, ils ont déjà fumé, elles se sont fait des batteries, etc. C'est pas le truc, mais c'est pas, elles ont, je pense pas avoir donné envie de ça. Et étrangement, je suis assez content en fait. Parce que je sais qu'il y a un moment, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a un peu une loterie. On est fait ou pas pour ça. Et si ça me ferait chier de voir mes mômes dans le canapé, à mater des films toute la journée en fait. À bouffer des chips et à fumer de la boue avec leurs potes, comme j'ai fait. C'est ça le truc, je me dis, waouh, en même temps je l'ai fait, et puis bon, je me démerde pas trop mal. Donc
bah, offrir un contre-exemple, ça peut être une bonne stratégie.
Je pense que, parce que si, je crois pas vraiment, en plus, franchement, à l'époque à laquelle on vit, en parler comme d'un truc comme du diable, c'est comme dire, ah non, le sexe, jamais, ça, jamais. Ouais, tu peux être sûr que le lendemain, c'est genre, waouh, je vais aller me rouler un joint, il foutra poil avec 5 mecs, donc. Je pense qu'il faut parler des choses. En plus, je pense qu'elles ont vu ce que je vois pas du côté négatif aussi. Que moi, je veux pas voir, elles l'ont vu. Et, tu vois, elles aimeraient bien que j'arrête aussi, je pense. Donc, c'est quelque chose qui c'est intéressant.
Merci.
J'espère que j'ai pas trop parlé.
Non, c'était parfait. Passionnant. Merci, Boumbass. Alors, on a une petite tradition dans ce podcast. Ça s'appelle la banane de fin. On t'en dit pas plus. On se retrouve juste après le générique.
Nick, la radio.
Ça, c'est la banane qui va redonner la banane à la France. Parce que si t'as la banane, t'as la cerise. Si t'as la cerise, t'as le gâteau. Si t'as le gâteau, t'as la crème. Si
de la crème.
Banana Kush, le podcast des cultures du cannabis.
Alors Camille, tu penses que ce sont ces filles ou le CBD qui vont réussir à le faire arrêter? Enfin en tout cas à réduire sa consommation pour se découvrir sobre, tout nu, sans filet.
Bah si j'ai bien compris ce que nous a dit Boombas dans cette interview, je crois que ce sera surtout sa volonté, hein. Et d'ailleurs je pense que sa volonté sera faite. C'était le 27e épisode de Banana Kush avec Camille et Christophe ad vitam aeternam.
Charlène Noyoux à la réal sur la terre comme au ciel.
Restez bien à l'écoute jusqu'à la fin des temps pour connaître le choix de Boombas face au divin dilemme de la banane de faim. Salut.
Blanche-Neige, Sticky, Trip et Joint, Hervé voyage au bout de l'acide lysergique, dithylamide et la nuit.
Et ben voilà, ça y est, on y est. C'est l'heure de la banane de faim. Donc, comme on le fait avec chacun de nos invités, on va te proposer de choisir entre deux bananes. La banane jaune, celle-ci, ou la banane verte.
La banane jaune et la banane verte.
C'est quoi?
Je vais prendre la verte. Parce que quand même, je peux pas renier mes origines. C'est
voilà,
gentil.
C'est cadeau.
C'est un beau cadeau.
Merci, Boombas.
Bah, merci à vous deux.
À bientôt.
Ouais, à bientôt.
Attention, la consommation de cannabis est illégale et dangereuse pour la santé. Information et prévention sur drogueinfoservice.fr.
Pourquoi se casser les dents d'aliments et pourquoi se fatiguer à les faire mijoter? Les ragoûts, c'est pas mon goût, les rôtis, moi ça m'ennuie. Aujourd'hui on change tout, la cuisine c'est fini. Primo, la banane, secondo, la banane, et tertio, la banane.